le gang des gazières.
Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà.
Le gaz des gazières!
Des blagues.
Du boucan.
Des lectures.
Du chant.
Des coups de gueule.
Des interviews.
Des recettes.
Tous les premiers mercredis du mois, de 20h à 22h.
Le gang des gazières.
On mixe les cow-boys. Mais c'est pas une émission culinaire.
Et c'est sur Radio Galère.
Bonsoir, vous êtes bien sur le gang des gazières. Vous venez d'écouter Grey des Reines Prochaines qui vont passer le 7 avril à Allo Garage au 18 rue d'Italie à partir de 20h. Je vous invite à venir à découvrir si vous ne connaissez pas. Ce concert est en mixité choisie sur Maxi 7. Dans cette émission qui est un fake, nous ne sommes pas là. Vous allez entendre plein de beaux sons. Vous allez écouter dans un premier temps Celles qui n'ont pas de nom, un documentaire de Béa qui parle des personnes qui ne sont pas considérées suffisamment importantes pour qu'on leur donne un nom. Et ensuite, Donde está Julia Chenil? C'est une chronique sur une militante mapuche disparue depuis novembre 2024, faite par des camarades de Radio Campus Grenoble. Ensuite, nous écouterons la première partie, une heure, de Décolonisons les ondes, une émission qui a été diffusée sur Radio Saint-Ferréol en janvier dernier, une nuit radiophonique qui a été partagée en 9 parties. Et là, donc, on écoute la première. Et tout à la fin, nous écouterons la dernière chanson en date de Grâce et Volupté, Van Van. Mais tout de suite, du coup, on écoute Celles qui n'ont pas de nom. Bonne écoute, bonne soirée.
Celles qui n'ont pas de nom. Sophia, Fatou, Khadija ou Rosalia. Celles qu'on appelle par leur prénom. Celles à qui on ne dit pas « madame ». Celles qui n'ont pas de nom, comme leur métier, qui, lui, peut en avoir plusieurs ou qui change régulièrement, ce qui revient au même. Pour les aides à domicile, on a aide ménagère, femme de ménage ou employée à domicile. Les AESH ont d'abord été AVS, puis EVS. Et les aides soignantes, auxiliaires de vie, agents de soins, aide médicale ou aide médico-psychologique. Alors qu'un maçon est un maçon, un boucher... un boucher. Et ce n'est pas anodin de ne pas avoir de nom. D'abord, parce que ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et surtout, ça empêche la reconnaissance. Ça empêche d'avoir un statut. Ça justifie un salaire de merde. Comme si la fonction n'était pas vraiment définie. Comme si c'était pas vraiment un métier. Des exemples, il y en a d'autres. Et ça concerne presque tout le temps des boulots majoritairement exercés par des femmes. Qui ont même parfois un petit badge avec leur prénom. Stéphanie, Jessica, Sandrine ou Rebecca. Souvent des métiers du lien, des métiers du soin, des vieux, des jeunes, des malades. Pas de nom, pas de formation. De toute façon, on a toujours fait ça, s'occuper des autres. L'hygiène, la santé, l'éducation, la gestion administrative, on gère. Pourquoi aurait-on besoin de formation ? Peut-être parce qu'un personnel formé, ça se paye. Des formations qui dépasseraient notre solide savoir-faire empirique par des connaissances supplémentaires et l'acquisition de nouvelles compétences qui feraient gagner du temps, de l'énergie, qui éviteraient de potentielles mises en danger, physiques ou morales. Personnellement, dans les accompagnements que j'ai pu faire auprès de jeunes en situation de handicap, j'ai sûrement commis des erreurs. J'ai pu involontairement être maltraitante, dans mes mots ou réactions, faute de connaître les troubles vécus par le jeune. Mais quand un inspecteur d'académie répond à votre demande de formation en disant que vous n'en avez pas besoin puisque vous n'êtes pas des thérapeutes, ben d'abord vous avez la confirmation que lorsque l'académie se vante de faire du handicap une priorité, c'est le contraire qu'il faut comprendre. Ensuite, qu'il faudra continuer à faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire votre bon sens, votre bonne volonté, et vos bagages personnels. Tout sauf une professionnalisation. Mais effectivement, ça justifierait un salaire idoine. Et c'est vrai qu'on l'a longtemps fait gratos, et qu'on le fait bien souvent encore dans la sphère familiale. Alors pourquoi un salaire décent ? C'est déjà bien beau qu'on soit payé pour faire ça, ce qu'on a toujours fait par souci de cohésion. L'absence de reconnaissance va de pair avec l'absence de salaire. L'une n'existe pas sans l'autre. Dans ce système où l'argent fait la valeur des gens. Et même si ça ne correspond pas au nôtre de valeur, on en reprendrait bien un petit peu de la reconnaissance et de l'argent. Parce qu'avec trop peu des deux, C'est dur de tenir. Même quand on aime ce qu'on fait. J'ai d'ailleurs rarement entendu autant de personnes dire qu'elles aimaient leur métier, comme un leitmotiv qui permet de garder sa dignité. Avec des temps partiels imposés, des emplois du temps morcelés, des amplitudes horaires à en pleurer. Carmen, Josiane, Myriam ou Angela. Ne pas avoir de nom, c'est ne pas être reconnu. Les supérieurs hiérarchiques, les patrons, les collègues ayant un autre statut, ne connaissent souvent pas nos noms. Ne s'aperçoivent même pas que quelque chose cloche dans cette différenciation exercée à l'encontre de ce qu'il est communément appelé le petit personnel. Mais nous, les cloches, on s'aperçoit bien du mépris. Notre banquier aussi. Celles et ceux qui bénéficient de nos services, à qui on permet de maintenir ou de développer une autonomie physique, intellectuelle ou sociale, sont bien souvent les seuls à nous témoigner cette reconnaissance. Et on la reçoit comme un trésor. Ce qui est rare vaut de l'or. Ce n'est pas qu'on soit spécialement narcissique. C'est normal de bien faire son travail, a fortiori quand on y met du cœur. Mais à force d'être invisibilisé, ça vire à l'indignité cette histoire. Et pourtant, ces métiers sont souvent difficiles. Ils demandent polyvalence, adaptabilité, réflexion, improvisation, prise d'initiative, d'être psychologue et empathique. Physiquement aussi, ils mettent les corps à rude épreuve. Auxiliaire de vie à domicile fait partie des métiers qui comptabilisent le plus d'accidents de travail. Mais plus les salaires sont bas et plus les exonérations de cotisations sociales patronales sont fortes. Les employeurs, privés comme publics, ont donc tout intérêt à ne pas revaloriser ces salaires. La précarité est un choix politique. Le projet de loi Grand Âge, promis par Macron en 2018, a été repoussé 5 fois sans être jamais voté. Il prévoyait entre autres une revalorisation du métier d'aide à domicile. Une proposition de loi concernant les métiers du soin a été soumise au vote pour obtenir un vrai statut, davantage de titularisation en CDI, des qualifications dès la première année, un salaire minimum, au moins dans l'éducation nationale. Rien de bien révolutionnaire. Ça ressemblerait même à un code du travail. L'Assemblée nationale a tout rejeté. Seul l'amendement pour inclure le terme « dignité » a reçu la majorité absolue. Adopter le reste de la proposition aurait montré concrètement que l'Assemblée nationale était attachée à notre dignité. Mais là, voter pour un mot dans un texte, sans voter pour les actes qui l'auraient mis en application, sonne simplement comme une belle hypocrisie. Ça ne va forcer personne au respect, et surtout, ça ne va pas faire bouillir notre marmite.
J'aimerais savoir dans cette salle, qui a déjà touché 800 euros? Qui a déjà touché 800 euros, 900 euros par mois? Personne! Vous savez pas ce que c'est? Vous savez pas la souffrance des métiers essentiels? Quand vous demandez l'augmentation des salaires, vous parlez, vous n'avez rien à faire ici. Quelle honte! C'est ma première fois que je viens ici. Je suis élue députée et je découvre des trucs horribles. Vous méprisez les métiers essentiels. Vous méprisez ceux qui servent la France.
Des femmes peuvent continuer à trimer pour s'occuper de celles et ceux qui ne peuvent plus ou pas encore s'occuper d'eux-mêmes. En novlangue, on appelle ça la cohésion sociale. C'est-à-dire la capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres, en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation. Ce sont donc Isabelle, Rabeb, Maria ou Lily qui vont s'y coller. Elles le font si bien, elles l'ont toujours fait. Avant, tout cela était géré en interne, au sein des familles. Et ça n'avait d'ailleurs pas de nom à ce moment-là, la cohésion. Mais la société a évolué, les modèles sociaux ont changé, et les femmes sont sorties des foyers pour avoir un emploi rémunéré. La société des hommes a vite compris ce qu'elle avait à perdre avec la désertion d'une manne si précieuse. Mais l'histoire moderne ayant accordé aux femmes d'être citoyennes, majeures et même d'avoir un compte en banque, il était compliqué de les garder à la maison pour bosser à l'œil. Elles se sont battues pour conquérir ces droits. Il a donc fallu s'adapter. Pas de bonne grâce. Mais enfin, il était encore temps de réfléchir à comment on pouvait leur donner un minimum, sans trop donner quand même. en créant une sous-catégorie de travailleurs, par exemple, les travailleuses. Et quand l'INSEE, en 1954, crée la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles, au nombre de 8, il y a parmi elles les personnels de service, qui disparaîtra en 82, mais l'héritage est bien là. Personne n'est dupe. Et surtout pas Soizic, pas plus qu'Aminata ou Samira. Et ce n'est certainement pas l'extrême droite qui se profile, qui va améliorer la situation. Ils votent systématiquement contre les lois qui permettraient aux plus pauvres de vivre mieux et rêvent de voir les femmes retourner au foyer. Aucun droit n'a jamais été obtenu en le demandant gentiment. Les avancées sociales, ça se prend, ça se conquiert. Mais lorsqu'on est précaire, il peut être difficile de s'organiser dans une lutte, car cela veut dire perte de salaire et difficulté à gérer en parallèle le quotidien. Et ça peut même sembler inutile, perdu d'avance, quand une grève impacte davantage les jeunes ou les vieux qu'on accompagne que les employeurs. Pourtant, certaines ont déjà éclairé le chemin et en sont sorties plus fortes et victorieuses. Commencée en 2019 et après 22 mois de conflit, la grève de l'Ibis Batignolles est la plus longue de l'histoire de l'hôtellerie française. Les salariés obtiendront finalement gain de cause, bénéficiant d'une réduction de la cadence, d'un versement d'une indemnité nourriture de 7,24 euros par jour et de meilleures conditions de travail.
C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, on ne sera pas payé par nombre de chambres, mais on sera payé par nombre d'heures. C'est-à-dire même les heures supplémentaires seront payées.
L'esclavage, c'est fini. La maltraitance, c'est fini. La maltraitance, c'est fini. L'esclavage, c'est fini.
Une autre lutte, moins médiatisée, avait obtenu des avancées au terme de 111 jours de grève. Celle de l'Holiday Inn à Clichy en 2018. Ou celle du Radisson Blue à Marseille, où 14 femmes de chambre ont fait plier, au terme de 2 mois de combat, la société Aqua, sous-traitant de l'hôtel de luxe. Et pas plus tard qu'en mai 2025, après 9 mois de lutte, les grévistes de l'hôtel première classe de Suresnes ont gagné des mesures qui bénéficieront à toutes les salariées. Le passage à temps complet, une étude sur les conditions de travail pour les améliorer, ou encore des formations. Elles ont également obtenu le paiement de 10 jours de grève et des réunions de dialogue avec la direction.
Le combat de la dignité, le combat de, voilà, de, du respect, le plusieurs, je ne sais pas, mais j'ai pas de mots, les mots me manquent tellement que je suis dans la joie.
Matériellement, ces victoires ont été possibles par la mise en place de caisses de solidarité pour pouvoir tenir financièrement sur la longueur, et par un roulement entre ces femmes pour s'occuper des enfants pendant que les autres tenaient le piquet de grève. Cette solidarité est couplée d'une joie combative qui permet aussi de tenir sur la durée.
On a une belle victoire, une très belle victoire.
Ah, la joie, c'est une victoire travaillée.
C'était pas facile, mais on y est arrivé. Parce qu'avec un grand groupe comme le groupe Accor, on n'était pas aussi sûr de ça. Mais quelque part, on disait on doit être déterminé. Et c'est notre détermination qui nous a menés jusqu'au bout. Et les résultats sont là. Et on est très fiers, on est très contents pour nous. Voilà, ce sont les femmes. On a combattu, on a tenu tête. Alors, c'était pas facile. Mais au final, comme je dis, la joie est là.
Donc, pour tous ceux qui vont écouter, pour tous ceux qui vont nous regarder, la lutte paye. Voilà, donc nous sommes fiers de nous. Hein, mes copines ?
Nous occupons des emplois essentiels au vivre ensemble. Nous sommes les piliers de cette société, mais on nous fera cadeau de rien. Alors, comme Brecht aurait pu l'écrire, celles qui luttent ne sont pas sûres de gagner, mais celles qui ne luttent pas ont déjà perdu. Avanti Popolo, et en musique, avec la Lega, une chanson de lutte italienne qui était chantée par les repiqueuses de riz de la plaine du Pô et qui est devenue le symbole de la révolte des ouvriers agricoles contre les patrons à la fin du 19e siècle.
Benché siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue
e ben ci difendiamo. Oh, oh, io, lì, là, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Oh, io, lì, là, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori vogliamo la libertà. Abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio. Oh, oh, lio, lio, là, e la Lega la crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Oh, lio, lio, là, e la Lega la crescerà, e noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Donde está Julia Chunil? Une chronique qui revient sur l'histoire de Julia Chunil, militante mapuche disparue le 8 novembre 2024. À travers son histoire se rejoue toute l'injustice et les inégalités que subit le peuple mapuche depuis des siècles, dans ce pays qu'on appelle aujourd'hui le Chili. Bonne écoute.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous. Avec tout le respect et depuis les informations dont je dispose, je vais vous parler de Julia Chunil Catricura, femme mapuche de 74 ans, défenseuse de la terre et dirigeante de la communauté de Putrehuel, région de Mafil, Hualmapu, au sud de ce qui s'appelle aujourd'hui le Chili. D'abord, qui sont les Mapuche? C'est un peuple ancestral de l'extrême sud de l'Amérique. En 1540, leur territoire était presque tout l'actuel Chili et le sud de l'Argentine. C'est un des rares peuples du continent qui a réussi à combattre et repousser les colons espagnols et garder un territoire autonome au sud du fleuve Biobío. D'ailleurs, ensuite, les guerriers Mapuche ont aidé les Chiliens à gagner leur indépendance face aux colons espagnols en 1818. Cependant, le gouvernement chilien nouveau-né montre rapidement sa soif de pouvoir et ressources et tente de conquérir le Hualmapu, le territoire mapuche, avec l'argument colonial fraîchement importé de l'État-nation.
Ver por dentro en sus ojos el llorar. Abrí mis sentimientos para poder escuchar. Que a los cuatro vientos yo le quiero gritar. Que yo a los mapuche voy a representar. Mi tierra ancestral ya se debe levantar. Mi tierra ancestral ya se debe levantar. Más de 500 años sin parar de luchar. Aquí era recuperada, pero son nuestra, nuestro hogar.
Pour les mapuche, c'est un nouvel épisode de résistance, répression et diminution de leur territoire. entre 1851 et 1883, c'est la pire opération de colonisation du Walmapu de la part du jeune État chilien, l'horriblement dénommée « opération de pacification de la région de la Araucanía ». Parallèlement à la colonisation similaire de territoires mapuche en Argentine, dénommée « pacification du désert ». De nombreux huaychafes, guerriers mapuche, tombent et l'État chilien s'approprie du sud du Chili, tentant d'assimiler la population mapuche et volant de nombreux territoires. Cependant, même sur des territoires réduits, les mapuche ne cessent de s'organiser en nations autonomes, avec leur propre culture, langue, cosmovision, interconnexion profonde avec tous les êtres, terre, plantes, eau, animaux et esprits.
Porque nuestra gente era sabia, sabía gobernarse. Al principio era respeto, sin necesidad de cárcel, ni juez, fiscal, moral, religión. Cada uno con su rol, un equilibrio, una labor y me divorcio de criterios occidentales para darle paso a nuestros parámetros mapuche, tales como respetar la tierra, como rescatar el relato de adultos que encierra.
La lutte pour la récupération territoriale est le pilier central de la lutte mapuche, qui signifie « peuple de la terre ». Parce que leur vie et santé physique et spirituelle dépendent de la terre, des forêts, des plantes, des ruisseaux, des lacs, de la mer, des animaux, etc. Leur existence est donc en conflit direct avec la logique extractiviste capitaliste. C'est une histoire constante de conflits, répression, racisme, négociations, avec les différents gouvernements chiliens et les différents investisseurs étrangers dévastateurs.
Es que yo soy como cuyé que de noche puede divisar. Represento a la miel que día a día sale a luchar. Y con mucho legüer esto se va a dedicar. Que con mi padre Antuyo te invito a caminar. Que el mapuche ya no es pueblo, el mapuche ya nación. Esto nace de mi piuque, esto nace del corazón. Hay niños sufriendo la demencia, no quiere parar. Diciendo mentira, no piensa en engañar. Hablando de cuidar al pueblo y por la espalda apuñalar. Seguimos resistiendo, no nos van a derrotar, no, no. Y ellos nos incriminan como ladrones, siendo que de los delitos ellos fueron los verdaderos autores.
Aujourd'hui, sous le gouvernement totalement hypocrite de Gabriel Boric, supposément de gauche progressiste, mais avec des politiques plus à droite que n'importe quel gouvernement de droite, les Mapuches souffrent une répression jamais vue. Depuis le 17 mai 2022, qui correspond au début du mandat de Boric, le Walmapu, qui est donc le sud du Chili actuel, territoire Mapuche, est sous le régime d'état d'exception, complètement militarisé. Cela dans le but de défendre les intérêts des grands entrepreneurs et dévastateurs, pour la plupart européens. Entreprises forestières, élevage de saumon, etc. De nombreuses organisations mapuche sont considérées comme terroristes et il y a une répression brutale envers le peuple mapuche en général. Intimidation, persécution, racisme, perquisition, prison préventive de plusieurs années, peine de prison disproportionnée, montage judiciaire, assassinat, des apparitions forcées, etc. Et l'avenir risque d'être encore plus terrible avec l'arrivée au pouvoir du facho et fils de nazi allemand Kast en mars prochain.
Ser mapuche corre por mi sangre, yo me enorgullezco. Vamos luchando y exigiendo los derechos. Que roban, matan, mienten, oprimen nuestro pueblo. Que van 500 años y no descansaremos. Incheta ni mapuche ni ni volmi ya ok. Amule peta y huechar en cagua en taimonera. Pujo en cagua en tu queco y la estufa ni yeñara. Que chumba taca triban tu amule y la miel negu en tu mena. Incheta ni mapuche ni volmi ya ok. Amule peta y huechar en cagua en taimonera. Pujo en cagua en tu que y la estufa ni yeñan. Que chumba taca triban tu amule y la miel negu en tu mena. Y con el buen para mis tierras ancestrales. Escúcheme bien, nuestra tierra nunca estuvieron en venta y nunca lo van a estar. Un fuerte afán para mis tierras ancestrales. Ya, 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 ya. Hija, en Simillera ya que la casa. ¡Pum, yeah!
C'est donc dans ce contexte que le 8 novembre 2024, Julia Chunil Catricura, 74 ans, part s'occuper de ses animaux accompagnée de ses chiens. Deux chiens reviennent, mais elle et Cholito, le plus jeune chien, ne reviennent pas. Julia Chunil se savait menacée par Juan Carlos Mostat Anventer, gros propriétaire terrien et chef d'entreprise forestière, descendant d'Européens. Elle avait averti sa communauté avec cette phrase maintenant tristement célèbre. « Si me pasa algo, ya saben quién fue. S'il m'arrive quelque chose, vous savez déjà de la faute de qui c'est. » Déjà déjà plus d'un an de recherche, d'angoisse, d'espoir aussi de la retrouver vivante, d'indignation, de rage, de manif. Cheumelei Julia Chunil. Donde está Julia Chunil? Où est Julia Chunil? Alors que dès le premier jour, la famille informe le nom du principal suspect, celui-ci n'a jamais été inquiété ni interrogé. Au contraire, l'enquête s'est concentrée sur la famille, surtout les fils et la fille de Julia Chunil, qui ont été victimes d'une forte persécution de la part des agents de l'État. Plusieurs perquisitions, interrogatoires musclés, fausses preuves, dans le but de faire un montage judiciaire pour accuser la fille de Julia Chunil de la mort de sa mère et laver les mains du grand propriétaire terrien. Maintenant, c'est le tour de ses fils d'être accusé, et c'est aujourd'hui un de ses fils qui est considéré comme le principal suspect par la justice. Pendant tout ce temps, l'État nie l'accès aux dossiers d'enquête à la famille et aux avocats. L'affaire est à la charge du même procureur que quand ils ont fait passer l'assassinat de Macarena Valdés pour un suicide. Macarena Valdés qui était une autre défenseuse mapuche. Le 30 septembre dernier, l'avocate accède par erreur à l'enregistrement d'une conversation téléphonique de Juan Carlos Mostat Anventer, datant du lendemain de la disparition de Julia. « Ils ont brûlé Julia Chunil », dit-il. 11 mois que cette information était maintenue cachée, que l'assassin et le responsable ne sont pas inquiétés, que les enfants de Julia sont persécutés et en plus de l'angoisse de chercher leur mère, que les rues, plages et montagnes crient « Où est Julia Chunil ?» Suite à cette révélation, il y a eu des grosses manifs dans tout le pays. La douleur, l'indignation et la rage se font sentir. Hélas, elles sont vite retombées. Le 12 octobre, cyniquement déclaré jour des peuples originaires au Chili, la grande chaîne de télé Canal 13 publie un reportage de 13 minutes sur l'affaire, accusant directement l'un des fils de Julia Chunil de l'assassinat de leur mère. Malheureusement, cette chaîne a un grand pouvoir médiatique et beaucoup de personnes boivent leur montage. Plus que jamais, nous nécessitons amplifier la voix de la famille de Julia Chunil, diffuser les informations réelles et demander que soit enquêtée la responsabilité de Juan Carlos Mostat Anventer dans l'assassinat de Julia Chunil Katrikura. Parce que comme elle-même l'avait présagé, « Si me pasa algo, ya saben quién fue ». Vérité et justice pour Julia Chunil. Actuellement, sur grand fond de racisme, surcriminalisation et irrégularité judiciaire, se déroule le procès du Huerquén porte-parole Rafael Pichum. J'espère pouvoir vous en parler dans un prochain épisode. À bientôt.
Vous l'aurez compris, la répression contre les Mapuche est intense et elle coûte cher. Alors si vous avez envie de leur apporter votre soutien financier, vous pouvez écrire à Solidaridad, S-O-L-I-D-A-R-I-D-A-D, tiré du 6, ppm@riseup.net.
La liberté, ça se donne pas, ça s'agrace. Nous disons à pas l'État colonial français. À pas le colonialisme français. À pas l'impérialisme français.
Décolonisons les ondes.
Résistance
et lutte de libération.
Une radiophonique en direct sur Radio Saint-Ferréol
94.2.
Des prises de parole,
des lectures,
des interviews,
des poèmes
et de la musique.
À partir de 19h jusque tard dans la nuit.
Et en streaming sur le site radiosaintfé.com.
Vous allez écouter un épisode de l'événement radiophonique exceptionnel Décolonisons les ondes qui a été diffusé dans la nuit du 16 au 17 janvier 2026 sur Radio Saintfé. Un studio mobile, une trentaine de gens, de la nourriture et des boissons énergisantes se sont installés pour la nuit à la MJC Centre Social Nénichèze de Oust-sur-Scie et ont enchaîné des lectures, des discussions, des morceaux de musique pour une nuit radiophonique décoloniale. Pour écouter le reste et des bonus surprises, rendez-vous sur radiosaintfé.com en recherchant Décolonisons les ondes dans l'onglet de recherche.
Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sangs, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humilié esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain.
Vous venez d'entendre un extrait du discours de Patrice Lumumba le 30 juin 1960, jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Arrêté et torturé en 1959, Patrice Lumumba est un des héros de la guerre d'indépendance contre les Belges. Il s'est battu aussi pour l'union du peuple congolais contre les colons belges, mais aussi pour l'union de tous les peuples africains contre les impérialismes européens. À l'indépendance, il devient le premier ministre de la République du Congo, mais suite à un coup d'État soutenu par la CIA le 14 septembre 1960, Mobutu prend le pouvoir avec le soutien du président Kasavubu et de l'ONU. Le 10 octobre 1960, Lumumba est assigné à résidence, mais il réussit à s'évader avec sa famille. Il est ensuite rattrapé, arrêté, puis torturé et fusillé le 17 janvier 1961, et Mobutu fait dissoudre le corps de son rival dans l'acide. Plusieurs des partisans de Lumumba seront exécutés dans les jours suivants, avec la participation de militaires ou mercenaires belges. La population paysanne prend alors les armes sous la direction de Pierre Moulélé, ancien ministre de l'Éducation, au cri de « À Lumumba » ou « Moulélé Maille » et conquiert près de 70% du Congo avant d'être écrasé par l'armée de Mobutu, soutenue par la Belgique et des mercenaires sud-africains. Nous choisissons de commencer notre nuit radiophonique décoloniale par son discours pour honorer les luttes d'indépendance, mais aussi toutes les luttes d'émancipation qui ont suivi et continuent encore aujourd'hui. Si nous choisissons d'honorer en particulier la lutte congolaise, c'est aussi pour rappeler que ce pays vit encore depuis plus de 30 ans, des conflits ultra-violents alimentés par les intérêts extractivistes des anciennes puissances coloniales. Et depuis 3 ans, la République démocratique du Congo commémore le 2 août de chaque année le génocide pour des gains économiques dit « génocoste » en mémoire des millions de Congolais tués dans les conflits qui ont ravagé le pays depuis plus de 3 décennies.
Décolonisons les ondes. Résistance et lutte de libération. En streaming sur radiosaintfait.com.
On est le 16 janvier 2026. Il est 19h06. Ça fait plus de 500 ans que ça dure, sous des formes de plus en plus violentes et sophistiquées. Le 25 décembre dernier, l'armée états-unienne bombarde le Nigeria. Le 2 janvier, elle attaque le Venezuela et kidnappe son dirigeant. Le 3 janvier, des forces militaires françaises et britanniques bombardent conjointement la Syrie. Si les raisons invoquées sont la menace contre la démocratie chrétienne ou encore la lutte contre le trafic de drogue, la réalité est bien le maintien des intérêts capitalistes et la mainmise sur des ressources indispensables à leur existence. De la part des États et médias occidentaux, quasi aucune réaction. Le colonialisme ne s'est jamais aussi bien porté. Mais ce qui dure depuis 500 ans aussi, ce sont les résistances acharnées à toutes les formes de colonisation. Aujourd'hui, on n'a jamais été autant nombreuses aux quatre coins du monde, informées, organisées, reliées et déterminées à anéantir ce système mortifère. Ce soir, on ne fera pas un inventaire exhaustif de l'horreur coloniale. On a surtout envie d'honorer les résistances et luttes de libération. Alors, ensemble, sur Radio Saint-Fée, décolonisons au moins les ondes.
Salut à tous, on est en direct sur Radio Saint-Féréol 94.2 FM et en streaming sur radiosaintfée.com depuis la MJC, Centre Social Nini Chaise, à Oust, dans la Drôme. On s'est installé là-bas avec un studio mobile pour toute la nuit. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre pour écouter à plusieurs, papoter, assister au plateau, boire une tisane, grignoter un truc, profiter de la magie du direct. Il y a un espace pour les enfants aussi. On est là jusqu'à au moins 2-3 heures du matin. Mais si vous voulez rester au fond de votre lit ou dans votre canapé, à votre aise. Et normalement, tout sera réécoutable en podcast dans les prochaines semaines. Vous allez entendre donc la première nuit radiophonique décoloniale de Radio Saint-Fée. Il y aura de la poésie, des témoignages, de l'histoire, des chansons, des contes, des analyses, des discussions, etc. Ainsi, on veut mettre en avant toutes ces différentes formes entre résistance poétique, armée ou intellectuelle, entre rage et joie, entre contestation et créativité. Pour nous situer, nous sommes tous des produits de l'histoire coloniale, que nous soyons blancs ou cibles du racisme, descendants de colons ou de décolonisés, ou de colonisés, ou parfois les deux. Nous savons que nos relations et nos manières de faire société sont aussi le fruit de cette histoire. Il y a urgence à la regarder droit dans les yeux, pour construire un avenir moins pourri pour tout le monde. Et avant de commencer cette longue nuit, on a envie de vous souhaiter des vœux pour l'année à venir, d'avoir du temps pour construire des choses ensemble, des alliances encore plus fortes entre les luttes, de prendre soin des enfants et de les protéger de la férocité du monde, de se proposer des espaces de répit et de repos pour reprendre des forces, d'arrêter de déshumaniser des personnes qui subissent le racisme dans leur chair, de sortir de la tyrannie des émotions dans nos espaces collectifs féministes, des ponts entre les luttes et les collectifs, plus d'artichauts, moins de fachos, que des rivières traversent nos rêves, de voir plus loin que son nombril pour s'attaquer ensemble au fascisme, de s'éduquer mutuellement pour être plus fortes, de se serrer les coudes avec les pauvres en commençant par ici, de continuer à lutter avec rage pour l'abolition de la prison et de la police et qu'on arrête de nous faire croire que c'est contradictoire avec notre combat contre la violence faite aux plus fragiles, qu'on n'ait plus jamais à entendre qu'il faudrait choisir entre le combat décolonial et les luttes féministes et transpédéguines partout dans le monde, des fronts larges et unis quand c'est possible, plus de réactivité et de déter pour agir, mettre l'État colonialo-capitalo-patriarcal en mode avion, de la force pour ne pas renoncer, de savoir à plusieurs fabriquer des joies irrécupérables, de ne pas oublier de taguer les murs.
L'impérialisme a changé de forme, mais notre colère, elle, reste intacte. Que décoloniser les ondes soit une contribution pour briser les chaînes anciennes et nouvelles. Et on va attaquer tout de suite en invitant Hans à nous lire un conte accompagné de musique.
Dodo, petit baba, cherche son maman avec son papa. Dodo, petit baba, cherche son maman avec son papa.
Salut, la nuit des mots décoloniales. C'est Mimi à l'antenne et ce soir, je vous propose de plonger avec moi dans l'histoire de la Réunion à travers la lecture de contes formidables. J'en suis très heureux parce que ces contes ont été une des manières pour moi de connecter avec mes ancêtres et ma culture maternelle malgache qui n'a pas eu beaucoup de place dans notre pays et dans mon enfance. Alors, je fais un tout petit peu de contexte d'abord. La Réunion, c'est une île qui se situe dans l'océan Indien et qui est grande comme un tiers de la Corse. Elle baigne à l'est de Madagascar, à l'est du Mozambique, au sud-est du continent africain. La Réunion, c'est un département d'outre-mer de la France. Ça veut dire que c'est un territoire qui a été colonisé et qui est resté sous la main de l'État, comme d'autres qui sont appelés les départements et territoires d'outre-mer. Sa particularité, c'est que la colonisation et l'esclavage, c'est quasi l'entièreté de son histoire, car on nous raconte que c'était une île sans population établie et qui a vu de nombreux peuples passer. Alors, la puissance coloniale française est déjà présente à Madagascar, immense île voisine que l'on nomme l'île Rouge. Et elle y prélèvera des forces humaines dont elle a besoin pour prendre possession des terres de la Réunion. Alors elle y envoie par punition des colons français indésirables de Tulanar, ce qui lui permet de déployer sa force coloniale sur la nouvelle île, tout en maintenant l'ordre à Madagascar. Elle y envoie aussi, enchaînées et forcées, des personnes malgaches, principalement de la côte Est, réduites au statut d'esclaves. On dit que deux colons y embarquent en 1663 avec 10 esclaves malgaches, dont 3 filles, de pas plus de 13 ans. Ce sont les premières femmes sur l'île. On dit qu'elles sont les ancêtres communs des Réunionnais. À La Réunion, on dit qu'il n'y a pas un Réunionnais ou une Réunionnaise qui n'ait pas une grand-mère malgache. Ce soir, je vous propose une lecture de 5 contes qui racontent des bouts de cette histoire coloniale par l'entrée d'un savoir ancestral hérité de la culture malgache sur les plantes médicinales. Vous connaissez peut-être le Ravinsar, qui nous soigne aujourd'hui par huile essentielle, sur le pillage du savoir et des terres malgaches. Un savoir longtemps dévalorisé et stigmatisé notamment à La Réunion. C'est vrai que les croyances, savoirs et pouvoirs malgaches sont craints et encore aujourd'hui entretenus par les préjugés racistes qui les associent à la sorcellerie et à ce qu'ils nomment superstition. Mais revenons à nos cabris. Dans ces contes, il est question d'histoire, de vécu et de mémoire d'esclaves, gardés précieusement dans des mots qui transmettent les savoirs sur les plantes magiques. Il est question d'esclaves, de morts, de blessures et de très très grandes injustices. Il est question aussi de lutte, de résistance et de dignité héritée de nos ancêtres malgaches. Alors ça peut te secouer et ça peut te faire pleurer. Et c'est ok. Un conte, une plante, une histoire coloniale de La Réunion, dans Flore Mazigador, Histoire et contes créoles des plantes magiques de la Réunion, par Céline Aounienne et TM. Toi qui écoutes, si tu veux la suite de l'histoire, quand tu m'entends dire criquer, tu peux répondre craquer. Craquer. Et craquer. Je parle pas créole réunionnais, hein. Alors j'apprends encore à prononcer comme il faut. Merci de votre indulgence. Tamarinier. Originaire d'Afrique, cet arbre aux feuilles paripennées, c'est-à-dire ayant jusqu'à 12 paires de folioles, donne des gousses larges, bosselées, contenant des graines brillantes recouvertes d'une pulpe brune comestible. Si cette histoire n'est pas vraie, c'est pas de ma faute. Ce sont les anciens qui l'ont réinventée. Criquet ?
Craqué.
Dans un virage du village des Avirons, vit un petit garçon espiègle surnommé Tiluka. Son chien s'appelle Zamal. Les deux dallons, ou les deux amis, sont inséparables. Dans un virage du village des Avirons, vit une petite fille malicieuse, prénommée Tilou. Elle est la première de sa classe. Tiluka et Tilou sont voisins-voisines. Dans le tamarinier qui ombrage leur maison, les enfants sucent des gousses de tamarin en grimaçant. Eh oui, la pulpe de fruits est acidulée. Dans un virage du village des Avirons vit Flora Luca, la grand-mère de Tiluka. Elle est tisaniaise. Elle connaît les vertus médicinales des plantes et concocte des tisanes et des rhums remèdes. Mémé aperçoit Tilou et Tiluka cachés dans le tamarinier. Et Marmaille, il est midi. Descendez du pied de bois. Les fantômes sans foi ni loi rôdent sous son ombrage à la recherche de futures proies. Mémé a raison, dit Tilou, première de la classe. Une étude scientifique a prouvé que lorsque le soleil est au zénith, le tamarinier produit un gaz hallucinogène. Ce qui expliquerait cette croyance populaire. Pieds nus, les enfants sautent à terre et s'empressent de rejoindre Mémé. Dans la cuisine, le bruit du pilon résonne. Grand-mère écrase les épices avec de la pâte de tamarin pour préparer un « Masale cabri, masale cabri » chante Tiluka, des étoiles plein les yeux. « Marmaille, soyez sage, je vais vous raconter une histoire. » Tout de suite, Tiluka et Tilou s'assoient, les bras croisés. Zamal s'approche à pas de loup de la viande de cabri que Mémé a posée sur la planche à découper. Alléché, il la renifle. « Criquet ?»«
Craqué !»
répondent les enfants en chœur. Au temps de Madame des Bassins, un esclave fut puni pour une faute qu'il n'avait pas commise. Condamné à être pendu à la branche d'un tamarinier, l'esclave clama « Je suis innocent, cet arbre vous le prouvera, je peux vous le jurer. » Le lendemain matin, les esclaves s'approchèrent de l'arbre, médusés. Sur les branches, des centaines de fruits pendaient. La veuve du pendu écossa une gousse, bouleversée. À l'intérieur, les graines charnues ressemblaient comme deux gouttes d'eau au visage de son bien-aimé. S'agenouillant devant le tamarinier justicier, elle cria « Mon ziel est sec, à fort plairé. Commandeur, ralfort ton oreille. Marron dans cirque, y veille soleil, pour battre tambour la liberté. » Mes yeux sont secs d'avoir trop pleuré. Commandeur, prépare-toi. Les marrons dans les cirques guettent le soleil pour faire résonner le tambour de la liberté. Zamal se met à hurler à la mort. Dehors, le feuillage du tamarinier majestueux se ferme comme 1000 paupières d'or. La nuit venue, les marrons du royaume de l'intérieur détachèrent leurs frères et en son honneur provoquèrent un incendie libérateur, conclut Mémé. Tilou et Tiluka regardent entre leurs mains la gousse de tamarin. Ils y ont les yeux embués. Pisonia lesanlota, espèce endémique en danger d'extinction, cette plante possède des feuilles ressemblant à des pointes de lance. Ses fleurs sont parfumées et ses fruits sont extrêmement collants. Les nuits de pleine lune, Mémé fait des rêves prémonitoires. Hier soir, dans son sommeil, elle a aperçu un arbre perdu au milieu de la ravine à malheur. Dès les premières lueurs de l'aube, elle se met en route. Il faut qu'elle retrouve le pied de bois qu'elle a vu dans son rêve. Tiluka et Zamal la suivent. Sur les pentes de la grande montagne, au creux d'un virage abrupt, Mémé s'arrête. Les choucas lancent leur hampe florale vers le ciel. Des grillons stridulent. Grand-mère s'assoit sur une pierre ronde comme le dos d'une tortue géante. Tiluka et Zamal s'apprêtent à attraper un caméléon par la queue quand Mémé chip. « Soyez sages, les enfants. Une histoire tragique s'est déroulée ici. » Kiluka et Zamal grimpent sur l'énorme pierre ronde aux côtés de grand-mère. Criquet ?
Craqué.
Répond Kiluka. À cet endroit précis, en 1672, des esclaves formontèrent l'assassinat du gouverneur de la colonie, Jacques de la Heure. Le tuer était une question de survie, car cet homme était si tyrannique qu'il fouettait enfants et vieillards jusqu'à l'agonie. Les jours de canicule, il se permettait d'insulter le soleil, sans répit. Un jour, les esclaves qui le portaient dans un manchis le renversèrent au-dessus du rempart. Juste ici. Kiluka scrute la pente raide qui plonge jusque dans le lit de la ravine. Dans sa chute, le gouverneur fut retenu par un pisonia lanceolata, fleuri. L'arbre lui sauva la vie. Ses vêtements étant collés aux fruits gluants, le gros abat se déshabilla et gravit la paroi rocheuse, les fesses à l'air. Quelle hérésie! Arrivé au sommet, il saisit son fusil. Un coup de feu retentit. Le ciel s'obscurcit. Puis un deuxième jaillit. Le nom de Ravine à malheur est issu de ce récit. Zamal dresse l'oreille. Il a entendu un cri. Il dévaille un raidillon et Mémé le suit. Comme un cabri, elle saute de roche en roche. Soudain, elle s'écrie. Foutor, le paysage est identique à celui de mon rêve. Entre deux feuilles de chouka, que voit grand-mère? Un pisonia lanceolata. Pisonia, je t'ai trouvé. Vous n'êtes plus que deux dans l'île. Les autres ont tous disparu, s'exclame Mémé. La voix de grand-mère est recouverte par le piaillement d'un paille en queue en détresse. Collé sur une branche, l'oiseau s'est englué les plumes avec les graines adhésives du pisonia. Kiluka le décolle délicatement. Entre ses paumes, le paille en queue tremble. Le petit garçon ouvre ses mains pour le libérer. L'oiseau s'envole dans le ciel bleu comme une orange. Mémé et Kiluka sont ravis. Sur le chemin du retour, ils chantent en chœur.
Et bonsoir, on est donc sur Radio Saint-Ferréol. Donc vous venez d'entendre Mimile et des contes réunionnais. Donc on va régulièrement pendant la nuit faire des petites annonces, des annonces de choses qui vont se passer ou qui se passent dans le coin. Donc là, on a envie de vous parler du ciné-club. Tiens, il y a un ciné-club des Coloniales à la MJC, là où on est. Donc c'est tous les derniers jeudis du mois. Et la prochaine date, c'est le 29 janvier. On va diffuser le documentaire « Le Sahara n'est pas à vendre » de la réalisatrice Jocelyne Saab. Et il y aura aussi un retour avec Tislem Black Mabruk, qui est une des autrices du livre collectif « Les mâles du retour, voix de femmes sahraouies ». Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Alors, on a aussi à la bibliothèque autogérée La Cartouche à Créer, des permanences les mardis de 18h à 20h. Et pour les prochaines dates, c'est le mardi 20 janvier, avec un arpentage autour de Angela Davis. Les permanences sont ouvertes à tous. Et celle d'après, c'est le mardi 27 janvier, permanence en mixité choisie cette fois-ci, personnes racisées, non blanches.
On voudrait aussi vous prévenir des rassemblements réguliers qui se passent en soutien au peuple palestinien dans le coin. Du coup, tous les jeudis à 10 et à 17h devant la cité scolaire. Les jeudis aussi à Cray, depuis 3 ans, de 17h30 à 18h30 sur la passerelle du pont Mistral. Ça continue, c'est très important de continuer à être présent régulièrement. Et les samedis à Valence, c'est soit place Porte-Neuve, soit au Champ de Mars. En général, c'est 11h. Selon les périodes, c'est un samedi sur deux. Faut se renseigner. Voilà. On a aussi quelques groupes Telegram pour s'organiser ou avoir des infos.
Le premier, c'est Action Gaza 26. Pour le second, on a Actu Flottille Gaza 2607. Et enfin, Info Décoloniale. Et pour être ajouté sur un de ces groupes Telegram, vous pouvez écrire à info_lutte_26@protonmail.me.
Ok. Et il y a encore quelques événements à venir. Là, on parle du coin, mais tout à l'heure, dans la soirée, on parlera aussi de ce qui se passe dans le Royan. Il y a pas mal de personnes du Royan qui sont venues. Du coup, là, on est sur la zone Crédit Valence, mais voilà. Donc, dans les événements à venir, ici encore à Oust, au centre social MJC Ninichèse, il y aura le 27 février un repas partagé et une scène ouverte en soutien aux habitants de Gaza et aux prochaines flottilles. Et les 26, 27 et 28 mars, des projections de films palestiniens dans le cadre du festival Palestine en vue à Mirabel et Blacon et aussi à Oust et aussi au cinéma de Cray, l'Éden. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore On va continuer la nuit radiophonique Décolonisons les ondes. Est-ce que... on a quelqu'un à accueillir. Est-ce que tu es prête ?
Ouais, je suis prête.
Ouais.
Presque. Bah, du coup, c'est Fatou qu'on va accueillir qui est en train de s'installer. Est-ce que tu as envie de nous parler de ce que tu vas nous lire ?
Non, d'abord, on peut écouter un morceau.
Eh bien, c'est parfait. On écoute un morceau.
Thoughts at night have festered in my mind. I don't wanna rest. The pain numbs, oh, but still I feel it deep inside. It's dark, bright and blue. Hey. That I still see when I close my eyes. When I think of you, yeah. Why is this so hard to breathe? You know the leaves turn red and the orange rain has fallen. So hard to breathe. You know the trees turn gray and the winds have brought us snow. So why is it so hard to breathe? Thank you.
turned gray and winter brought us no help. So I said so.
On vient d'écouter Sophie Soliveau, qui est une superbe artiste, je ne sais pas quoi dire, harpiste et chanteuse de jazz, entre autres. On est toujours sur Radio Saint-Ferréol, en direct, je crois.
Ouais.
94.2, ou en streaming. Je vais lire, en tout cas, un premier bout, et peut-être je lirai un deuxième bout tout à l'heure, de l'introduction du livre qui s'appelle « Pour la joie », qui a été dirigé et coordonnée par Kiémis, qui est poétesse, essayiste, qui a animé pendant un peu plus d'un an sur Mediapart l'émission « Rend la joie ». Et elle a invité plein de monde pour ce truc superbe qui parle de la joie. Et son introduction est importante, j'aurais envie de dire. Du coup, c'est parti. Et comme c'est un peu long, il y aura une pause musicale au milieu. Je n'aime pas la dystopie. Ou plutôt, je n'en peux plus. J'en ai lu, j'en ai vu, je comprends leur fonction, leur avertissement, leur radicalité, leur capacité à réveiller. Mais, aujourd'hui, elles me donnent la nausée. Parce qu'elles sont devenues l'unique langue des imaginaires populaires. Parce qu'elles colonisent notre capacité à rêver. À chaque nouvelle série post-apocalyptique que je commence à regarder, mon espoir diminue. Et le pire, pour moi, ce fut La Servante écarlate. Je comprends la théorie, hein. Je comprends la mécanique du choc, la puissance de la critique. Pourtant, je me suis surprise à me demander où sont les séries qui imaginent les utopies féministes? Où sont les séries qui explorent le plaisir d'une vie libre, les questions existentielles dans un monde réellement abondant, solidaire, joyeux? Est-ce qu'on ne néglige pas l'impact psychique des dystopies? Est-ce qu'on ne sous-estime pas leur pouvoir de modeler nos attentes, de figer notre horizon, de nous empêcher d'imaginer des alternatives? Je refuse ce sort. Je refuse cette vision unique, car à force de nous proposer que le pire, nous oublions comment espérer. Nous oublions que d'autres futurs sont possibles, que d'autres récits peuvent nous habiter. Dans ce monde saturé de catastrophes, la joie est perçue comme suspecte, comme un luxe naïf, comme un manque de sérieux. Parler de joie, de douceur, de beauté partagée, c'est souvent se heurter à une condescendance feutrée, à des regards incrédules. Comme si espérer relevait de l'infantilisme, comme si désirer autre chose que la survie était un caprice. Mais ce soupçon envers la joie n'est pas neutre. Il dit quelque chose du monde tel qu'il est structuré. Un monde qui valorise la productivité, la compétition, la rudesse, la résignation, un monde qui veut que nous soyons désensibilisés, dociles, pressés, un monde qui méprise le plaisir libre, la fête collective, la lenteur aimante. Ce monde ne sait pas quoi faire de la joie, alors il la ridiculise, l'ignore ou l'associe au divertissement superficiel. Dans ce monde, rien ne nous pousse à la chercher. En 2023, lorsque j'ai commencé mon cycle d'émissions « Rend la joie », je me suis rendu compte à quel point cette question, pourtant simple en apparence, était complexe. Où était la joie? Où se logeait-elle dans nos quotidiens envahis par l'anxiété, par cette époque rongée par les urgences climatiques, politiques et sociales? La plupart des personnes interrogées hésitaient, détournaient la question, répondaient par l'enfance, par des souvenirs, rarement par le présent. Rien. Rien dans notre environnement n'encourage la joie. Ni l'école, ni le travail, ni les institutions. La joie est une émotion reléguée à l'intime, à l'anecdotique. Elle est rarement pensée comme un axe de réflexion politique, comme un besoin fondamental, comme une dimension collective. Il faut dire aussi que tout semble concourir à l'éteindre. Les fractures de la gauche sont exposées à la loupe. Ces désaccords deviennent des spectacles publics. Le moindre débat devient une foire d'empoigne scrutée, moquée, amplifiée. Pendant ce temps, les algorithmes façonnent nos écrans, favorisent les contenus abrasifs, les récits anxiogènes, les tonalités cyniques. Nous sommes nourris d'angoisse, de clash, de provocation virale. Le discours dominant n'a rien d'un appel à la joie, il en est l'antithèse. Il faut nommer cette fabrique de l'impuissance, et il faut le faire maintenant, car pendant que nous écrivons, pendant que nous cherchons à maintenir un souffle, des peuples entiers sont effacés. Des enfants, des mères, des familles entières meurent sous les bombes en Palestine. Le sang coule au Soudan. Les cris sont étouffés au Congo. Nous y assistons en direct, dans une douleur profonde mêlée d'impuissance, non pas parce que nous sommes réellement impuissants, impuissantes, mais parce qu'on nous a appris à l'être. Parce qu'on organise notre torpeur, parce qu'on nous rend témoins, passifs et sidérés. L'impuissance est partout invisible, parce que quotidienne, parce que naturalisée, elle s'infiltre dans nos mots, nos gestes, nos écrans, nos institutions, nos silences. Elle commence à l'école, où l'on apprend à taire ses intuitions, à se conformer, à ne pas rêver trop grand. Elle se plonge dans les algorithmes qui nous enferment dans des bulles de peur, de colère, de comparaison. Elle se déploie dans les discours politiques, dans les bulletins d'information qui martèlent qu'il n'y a pas d'alternative, que le monde est ainsi fait, que la crise est permanente, le mal inévitable. L'impuissance se fabrique aussi dans les corps, quand on ne se sent jamais légitime, jamais assez, jamais capable. Quand on intériorise l'idée qu'on ne mérite pas la joie, qu'on n'a pas de pouvoir sur sa propre trajectoire, que le futur est écrit sans nous. On devient alors spectateuriste de sa propre vie et cette posture est mortelle à petit feu. Elle est reproduite dans les arts. Les récits qui dominent célèbrent souvent l'anti-héros cynique, la défaite grandiose, le nihilisme élégant. L'ironie est préférée à la tendresse. Le sarcasme à l'espérance, on apprend à se moquer de l'espoir, à trouver naïf tout ce qui est porteur d'un futur désirable. Cette ironie pourtant, si elle semble protectrice, constitue souvent une cuirasse de résignation. Dans la fabrique de l'impuissance, tout est fait pour que l'on s'adapte à l'injuste. Les gouvernements eux-mêmes, du moins ceux des pays dits riches, semble avoir abandonné toute volonté de transformation radicale. Il gère, il pilote à vue, il colmate. Cette gestion tiède, sans désir ni vision, rend les discours fascistes étrangement séduisants en comparaison, parce que eux, au moins, promettent quelque chose, fût-ce le pire. La fadeur démocratique contemporaine rend le chaos désirable. Dans ce climat, les corps s'ankylosent. L'ambiance devient lourde et visqueuse. Comme un ciel parisien en novembre. Tout semble figé, les gestes sont lents, les volontés se ratatinent. On pousse à l'hibernation, à l'inertie, à la poussière, pour que l'on organise sa vie autour du manque, pour que l'on se tienne tranquille. Il s'agit d'une stratégie politique, d'une ingénierie, du découragement. En effet, un peuple qui doute de sa valeur, de son pouvoir, de son droit à la beauté, est un peuple gouvernable, prédictible, silencieux. Toutefois, ce que l'on nous apprend rarement, c'est que l'impuissance est construite. Et donc, elle peut être déconstruite. Qu'on peut la désapprendre dans cette perspective, la joie. Pas la joie euphorique, hein, mais la joie profonde, enracinée, peut représenter une boussole, une manière de retrouver ses contours, une méthode pour reprendre possession de sa vie, de son espace, de son souffle. C'est pourquoi la joie est politique, parce qu'elle s'oppose dans sa nature même à la domestication de notre vitalité.
Allez, assieds-toi près de moi. Je viens de compter mes heures au firmament des étoiles, ni dans les geôles, ni dans les prétoires. Encore moins à braquer les équipes rivales avec une pétoire.
C'est un livre ouvert de mes rêves, de ma rage, de mes mémoires, de mes emmerdes, de mes cris, de mes déboires. La vie réserve des surprises, moi, la lumière du soleil, je la vois décomposée sur prisme.
Et tu te souviens, nos soirées sans grillard, sans liasse, je pouvais pas faire un pas devant l'autre sans pillard. Les rames à 6 heures, ça grimpait au grillage. Ennemis avec le monde, c'était tous des putains de frères diables.
ANPE, j'avais ma fille en moi, ma foi, ma vie. Voir nos affiches sur les murs de la ville, entre cris de civils et sirènes d'ambulance, voici une épaisse bible du hip-hop ambulant.
Si on se moquait des KV en jack, on travaillait le standing pour briller en soirée mon jack. Tout n'est qu'une histoire d'image, comme les condés arrivent et nous parlent, comme si s'adressaient à des primates.
Alors ça part en mauvais ping-pong, je suis plus un Ouistiti maintenant, comme toi je suis devenu King Kong. Et on marche sur leur building, le stylo et la feuille représentent pour eux la frayeur ultime.
Plus rien ne m'étonne, puis qu'ils ont assassiné Ibrahim. Ils veulent ma peau quand je dis Bismillah Rahman Rahim. Ils traitent ça comme le pire des outrages, puis ont mis du kaki dans nos bouches et nos visages camouflage.
Des pages puis des livres, des marches puis l'élite, du béton gris à des parterres dirigés de lys. La chance a tourné comme un barilé, puis le quartier m'a tendu les bûches et les flammes comme à Galilée.
Nos heures de rage, nos heures de poisse, des airs de calme, nos heures de crasse, nos heures de classe, nos heures d'amour, nos heures de haine, nos heures de mal, erreur de jeunesse, voilà nos heures de gloire. Nos heures de rage, nos heures de poisse, des airs de calme, nos heures de crasse, nos heures de classe, nos heures d'amour, nos heures de haine, nos heures de mal, erreur de jeunesse, voilà nos heures de gloire.
Quand j'ai commencé, je portais le sang sur l'épaule pour mon crew. On vivait que pour la zic, inconscient de ce qu'on allait devenir, on vivait au jour le jour et les nuits étaient courtes. J'avais 16 piges et les conseils de ma mère passaient outre. Tu sais, j'ai jamais connu l'argent de poche, mon pote, donc j'allais les chercher dans les poches des autres. On se protégeait comme on pouvait, avec bagarre et coups de pression, entre Béliard, Ham et trahison.
Aujourd'hui, je suis fier de ce qu'on est devenu, loin du passé. Là, c'est de sentir le mal qui s'est jamais tassé. À présent, sur le retour de manivelle qui se produit, mais je regrette rien car j'ai eu des frères et pas des amis.
Nos heures de rage, nos heures de poids, des airs de calme, nos heures de crasse, nos heures de classe, nos heures d'amour, nos heures de haine, nos heures de mal, erreur de jeunesse, voilà nos heures de gloire.
Vos heures de rage, vos heures de poing, des airs de calme, vos heures de crasse, vos heures de classe, vos heures d'amour, vos heures de haine, vos heures de mal, erreur de jeunesse, voilà votre heure de gloire.
Le pas sur les dalles, 5 du mat,
soirée chargée comme d'hab,
je nous vois les mains dans les poches,
qu'est-ce qu'on avait du mal,
entre l'alcool et la danse,
chaos technique,
leur tour était fatal,
pendant que le monde
s'en allait au travail.
Nous on posait les doigts sur les bras des platines, le stylo frémissant sentant venir de nouveaux styles. À l'heure où l'embouteillage embrassait la ville, nous on caressait nos feuilles jusqu'à ce que sommeil s'en suive.
L'encre coulait à flot de minuit à minuit, juste par amour, alors on mangeait pas tous les midis. Les pâtes ou le riz, c'était les soirs de fête, sinon c'était d'honneur cousin. Sauce blanche sans oignon, deux canettes.
Sans pognon d'accord, mais des rêves plein la tête. Un trudant décor, c'était rare de porter une casquette. La gueule beaucoup trop grande pour y mettre une sourdine. Pendant les heures creuses, on allait esquinter du ski.
Shuriken, je me souviens du jour où on a pris des noms de guerre. C'est bizarre, à partir de là on a prôné l'inverse. Déjà dérangeant, hein, chill, nos goûts matelassés. Nos cœurs et nos esprits, mentalité fatlassée.
Vos heures de rage, vos heures de poisse, des airs de calme, vos heures de crasse, vos heures de classe, vos heures d'amour, vos heures de haine, vos heures de mal, erreur de jeunesse, voilà votre heure de gloire. Vos heures de rage, vos heures de poisse, des airs de calme, vos heures de crasse, vos heures de classe, vos heures d'amour, vos heures de haine, vos heures de mal, erreur de jeunesse, voilà votre heure de gloire.
C'était Ayam et tous leurs potes, nos heures de gloire. Je continue ce texte de Kiemis sur la joie. Il y a de la puissance dans la joie, Elle est un bouclier contre les mensonges, une manière de se rappeler que tout n'est pas figé. Nos corps, nos imaginaires, nos émotions peuvent se libérer des carcans imposés. Elle est transformation, elle est interruption. Elle casse les cycles de la peur, elle renverse la logique de domination, elle ne demande pas la permission. La joie est difficile, mais nous pouvons l'apprendre à l'instar d'une langue et d'une discipline. Peut-être qu'on ne nous l'a pas transmise. Cependant, nous pouvons nous l'enseigner les uns les unes aux autres comme un artisanat ancien. Nous pouvons redevenir les passeureuses de cette connaissance enfouie. Ce livre existe parce que, avant moi, des dizaines d'autorices, de poètes, de militants, de militantes, de grévistes, de folles et de fous, d'esclaves, de personnes LGBTQIA+, ont rêvé. Elles ont cru. Elles se sont battues. Elles ont ri. Nous venons de peuples qui ont survécu, qui ont rêvé, même dans les cales, même dans la nuit, même dans l'exil, qui ont parlé Yoruba à Baya, qui ont dansé dans les forêts, qui ont prié les ancêtres entre deux coups de fouet. Leur joie était une forme de dissidence. Leur foi était une technologie politique. Nous sommes aussi les enfants de militants et de militantes, de rêveuses, de bâtisseuses d'utopies inachevées. Certains ont sombré. Certaines ont été brisées, mais nous sommes là. Nous nous mouvons dans leurs rêves même quand nous ne le savons pas. Leur espoir n'a pas été vain. Il a pris corps en nous. Nous nageons dans les rêves réalisés des autres, dans les espoirs semés par des mains que nous n'avons jamais connues, dans les souffles libérés par celles qui, avant nous, ont refusé de plier. Les grèves ouvrières, les mouvements anticoloniaux, les marches pour les droits civiques, les luttes pour les congés payés, pour la sécurité sociale, pour le droit de vote, pour la dépénalisation de l'homosexualité, pour l'avortement libre, pour les papiers, pour les soins gratuits, pour les repas à la cantine, pour le droit d'exister. Toutes ces luttes ont été rêvées, portées, construites par des anonymes et des figures marquantes, par des collectifs, par des marges qui l'étaient uniquement parce qu'on leur refusait le centre. Nous vivons dans les sillons qui elles ont tracés. Nous marchons dans les rues qui elles ont arrachées à l'oubli. Nous écrivons sur des papiers rendus réels par leur entêtement et par leur vision. Nous nous mouvons dans leurs rêves, comme dans une rivière vaste et ancienne, sans toujours savoir que c'est elle qui nous porte. Chaque droit dont nous disposons aujourd'hui, aussi fragile, aussi menacé soit-il, a été remporté grâce à l'audace de celles qui ont osé rêver mieux, même sans garantie de réussite. Leur courage n'a pas été vain, leur fatigue n'a pas été inutile, leur foi nous a traversés, nous a façonnés, nous a rendus possibles. Leur espoir n'a pas été illusoire, il a pris corps en nous. Malgré le cynisme, malgré la fatigue, malgré les défaites, nous vivons, nous rions, nous tombons amoureux, nous écrivons, nous inventons. Et ce simple fait représente déjà une victoire contre les forces qui veulent nous assécher. Nous savons que dans les coins des cuisines, dans les silences, entre deux colères, dans les mémoires de nos mères, de nos grands-mères, de nos oncles et de nos frères, il y a eu autre chose, l'élaboration discrète d'une science de la survie. Une science orale, corporelle, incarnée. Une connaissance transmise dans les gestes du quotidien. Soigner, nourrir, écouter, compter. Une technologie vivante du lien, du soin et de la beauté. Il y a eu des chants et les danses qui font tenir les corps. Les recettes improvisées avec peu de moyens qui nourrissaient bien plus que des ventres. Les proverbes, les blagues, les histoires racontées au coin du lit, les vêtements partagés, les secrets chuchotés. Tout cela relevait d'un savoir-faire, celui de préserver la lumière dans l'obscurité, celui de protéger la joie comme on protège une flamme. Il y a eu aussi les mains qui tiennent et les enfants qui rient alors même que le monde brûlait. Il y a eu la joie, une joie discrète parfois, mais tenace. Une joie murmurée dans les langues qu'on voulait faire taire. Une joie tressée dans les cheveux, dans les plats partagés, dans les lettres cachées, dans les regards complices. Une joie comme une résistance diffuse mais constante. Une preuve que l'on peut refuser la déshumanisation sans prendre les armes. Une preuve que vivre pleinement, aimer, transmettre, rire encore, constitue déjà un acte politique. Pour autant, la douleur, la violence, l'oppression ne sont pas effacées. La joie ne les nie pas. Nous ne sommes pas naïfs et naïves. Nous savons le prix, la fatigue, l'angoisse, les effondrements. Ma volonté de célébrer la joie ne vient pas d'un excès d'optimisme. Elle est née, au contraire, d'un moment où celle-ci me semblait distante. J'étais à milieu du kiff. Dévoré par l'angoisse, la colère et la dépression, j'étais incapable d'y croire. Et pour tout dire, c'est ma mère qui m'a un jour doucement, tendrement, fermement invité à réfléchir à la joie, à la convoquer, à l'envisager ne serait-ce qu'un peu. Elle m'a rappelé qu'elle existe, même quand on ne la voit plus. Maintenant que j'ai passé la trentaine, je peux le dire, elle avait raison. La joie n'est pas une distraction, elle est un outil, une méthode, une stratégie, elle est aussi une tradition politique. Une pulsation qui traverse les mouvements progressistes, les espaces d'émancipation, les cultures de lutte. Elle s'incarne dans les carnavals populaires, dans les cortèges festifs, dans les fêtes queer, dans les soirées militantes, dans les rassemblements communautaires et dans les contre-cultures. La joie, c'est aussi ça, un art de vivre ensemble, de résister ensemble, de créer des espaces d'existence où la beauté, la liberté, la créativité ne sont pas secondaires mais centrales. Elle est politique parce qu'elle refuse de céder le terrain de vie aux logiques de domination. Alors oui, cette joie ne se donne pas aisément, il faut aller la chercher avec les dents. Elle se cache sous la peur, sous la violence, sous les injonctions, sous la honte parfois. Elle demande du courage et de la détermination. Elle est un moteur, mais aussi un devoir, un engagement envers nous-mêmes. Envers celles qui viendront après nous, une promesse que le feu ne s'éteindra pas. Refuser la joie, c'est parfois collaborer, pour le vouloir, à notre propre effacement. C'est accepter que tout ce qui vit en nous soit secondaire, accessoire, inutile. Alors, je n'accepte pas. Je refuse la résignation. Ma joie ne nie pas la colère, elle ne la dilue pas. Au contraire, elle la complète, l'honore, la prolonge. La colère est un réflexe sain, une réaction immédiate, viscérale, humaine. La manifestation brutale de la vie qui refuse d'être piétinée. C'est la dignité qui hurle, qui se cabre, qui dit non. La colère nous arrache au silence, elle nous redresse. Elle est l'électrochoc. Toutefois, la joie est ce qui nous permet de rester debout après ce sursaut. Elle transforme l'indignation en trajectoire. La joie ancrée, la joie décidée représente une manière d'habiter ce monde sans renoncer à le changer. Elle ne s'oppose pas à la rage. Elle la nourrit d'un horizon. Elle rappelle que nous ne sommes que les enfants de la perte. Nous sommes aussi les enfants du désir. Et ce désir-là, celui de la beauté, de justice, de lien vrai, est plus ancien que toutes les guerres. La joie n'est pas une fuite, elle n'est pas l'oubli ni le confort qui engendre ce dernier. Elle est le refus du désespoir comme destin, une manière d'habiter notre indignation avec tendresse, avec durée, avec engagement. Elle donne un avenir à la révolte, elle en est l'écrin. Par conséquent, si nous apprécions à rester dans cet entre-deux, sans peur de l'instabilité qu'il provoque, à devenir des funambules sur le fil du sensible, avec la colère comme tension motrice et la joie comme balancier, La colère nous fait voir le gouffre. La joie nous rappelle que l'autre rive existe, que quelque chose nous attend de l'autre côté. Elle nous pousse à créer, non par ego, mais par fidélité à ce que nous pressentons de plus grand que nous. Elle nous pousse à transmettre, non pour s'inscrire dans la postérité, mais pour s'assurer que le flambeau ne s'éteint pas. Elle est ce qui permet à l'espoir de ne pas mourir de solitude. Elle est ce qui rend les luttes habitables, ce qui permet aux militants et aux militantes de vieillir sans se dessécher, aux artistes de créer sans se briser et aux vivants de rester vivants. Un jour, à force d'étouffer dans l'ambiance saturée de récits dystopiques, je suis tombée sur un courant littéraire qui m'a redonné un peu d'air, le solar punk. Ce mouvement né en réponse au pessimisme froid du cyberpunk propose une autre voie. Il refuse le fatalisme. Il rêve d'un futur où nous aurions appris de nos erreurs, où l'écologie, la coopération, l'art et la solidarité formeraient le socle de nos sociétés. Le solar punk imagine une ville végétale, des quartiers où l'on entend des langues multiples, différentes, des jardins partagés, des transports doux, des poètes et des ingénieurs qui collaborent. Il rêve d'un monde lent, beau et respirable. Ce n'est pas l'utopie parfaite, mais l'espoir persistant. La lumière filtrant entre les fissures. Néanmoins, il me manquait encore quelque chose de plus incarné, de plus ancré dans mes propres héritages. En hommage aux mouvements afroféministes qui ont structuré ma pensée, j'ai voulu inventer un prolongement, une déclinaison, le Solar Femme. La suite tout à l'heure.
Entendre Tsété de Fatoumata Diawara. Voilà, vous venez d'écouter la première partie de Décolonisons les ondes, une nuit radiophonique diffusée en janvier 2026 sur Radio Saint-Ferréol. Il y a aussi, pour aller plus loin, alors je vous invite à écouter les autres parties, il y en a 9, ainsi que des bonus musique et un bonus sur les rencontres décoloniales rurales. Maintenant, nous allons, pour finir, pour nous quitter, écouter quelques nouvelles de Grâce et Volupté Van Van. Le dernier morceau en date, bonne écoute, douceur.
Je voulais t'envoyer quelques nouvelles. Cette journée avec toi a été si belle. De la musique que j'ai gravée, une BO pour un voyage, des souvenirs mis en partage de nos enfants endommagés, un sourire sur ton visage dans un salon ensoleillé. J'ai pas appris à vivre sans toi, j'ai apprivoisé ton absence. Je mesure ton influence sur mes goûts, sur la vie, sur le sens. T'as écrit mon intro, moi je fais qu'épiloguer. En chiale devant jeux vidéo quand je sais que t'y as pas joué. On était beaux, comme des enfants vieux. J'ai ta voix en stéréo quand je ferme les yeux. Fini le temps de la colère, celui de la banalité. Du second degré pour esquiver la gravité. Viens on s'élève, on s'emmène dans le grandiose. C'est le temps des belles choses.
On a appris à faire face à la mort. On a tagué ton nom face à la mer. Je voulais t'écrire quelques nouvelles. Ce monde est cruel, on arrive à se faire la vie belle. On arrive à se faire la vie belle.
Te donner quelques nouvelles de ta sœur, de ton frère, un peu des deux. Je me souviens de deux magnifiques petits merdeux. Ça a été dur sans toi. Et elle a porté tes shorts trop grands pendant des mois. Et elle a usé ses souvenirs en parlant de toi.
T'as passé avec nous quelques dimanches, coincé dans les draps, à se moucher dans la manche.
Et elle t'imagine comme le dernier gardien de la galaxie qui nous envoie des signes en cinématographie. Flottant en gravitation, à nous protéger des coups de pelle qui sur nous veillent. T'avais l'air radieux, à nous regarder avec fierté. T'avais les larmes aux yeux, la tête dans la foule éclairée. Jamais j'aurais cru être nostalgique d'un tourniquet-quête. Jamais j'aurais cru que ce serait ton dernier set.
On a appris à faire face à la mort. On a tagué ton. Écrire quelques nouvelles. Ce monde est cruel, on arrive à se faire la vie belle. On arrive à se faire la vie belle.
Devant, c'est pas là que je pleure, deux fois par an. La vérité c'est qu'on oublie, je te parle des fois le soir pété, sous un tas de fleurs ensevelies, 10 ans plus tard, te célébrer. Je vais faire simple, je te dis merci, si tu savais comment je te ressemble, tes potes en ont les lèvres qui tremblent, dans mes vocaux j'entends ta voix, si je prends de la thé je deviens toi. Dans mes bras aux enterrements, je sers des geeks de 50 ans, t'as fait le malin, toi t'es parti avant de connaître ta calvitie, on s'embrouillera plus. On est au-dessus, on est dans le sacré, le gâché, le perdu. Les souvenirs, l'amour et la beauté. On est dans les doses de morphine insensées. Dans l'irréparable, dans l'intensité. Je voulais t'écrire pour te donner quelques nouvelles. Ce monde est cruel, on arrive encore à se faire la vie belle.